CFM, le MAG, la vie du pays Midi-Quercy.
Le MAG Pays Midi-Quercy, tous les mercredis de 12h à 12h30 et samedi à 18h.
Bonjour, bonjour à tous. Merci d'être fidèles au rendez-vous de ce MAG du pays Midi-Quercy. Aujourd'hui, reportage, interview dans les locaux de la nouvelle maison de l'emploi à Caussade. Christophe Tillac, le directeur de cette maison de l'emploi, et François Bonhomme, maire de Caussade et président de la communauté de communes du Quercy-Caussadais et président de l'association qui gère cette maison de l'emploi, nous présente tous les deux à quoi va servir cette maison de l'emploi qui n'est pas encore tout à fait remplie puisque des services vont encore venir s'y installer au mois de juin. Vous savez que c'est le mois de l'Europe, qu'à cette occasion il va y avoir un quiz là tout à l'heure, hein. Vous savez, il faudra répondre à deux questions sur le répondeur de CFM pour gagner des drapeaux, des mugs, des stylos, en fait des tas de cadeaux si vous avez gagné. À l'occasion de ce mois de l'Europe aussi, Nathalie Grosborn, directrice du Centre Permanent d'Initiative à l'Environnement à Caïdus, explique en quoi les financements européens interviennent dans les actions que mène le CPIE du pays Midi-Quercy. Mais avant ça, des annonces. Une rencontre arbres, biodiversité et action territoriale le 10 mai à Réalville de 14h à 18h. Samedi 12 mai, papillons et orchidées du vallon de Saint-Symphorien. Dans le cadre de la fête de la nature, le CPIE Midi-Quercy et la Société des sciences naturelles s'associent pour vous proposer des merveilles de la nature. Une balade à la découverte de la biodiversité à 14h30 dans le site Natura 2000. Sur réservation au 05 63 24 06 26. À Nègrepelisse, jeudi 10 mai, atelier d'analyse filmique. Ce coup-ci, ce sera Certains l'aiment chaud de Billy Wilder. C'est à 20h à la médiathèque. Samedi 12 mai, en soirée, bal et initiation danse au Centre culturel du Sacré-Cœur à Montricou à partir de 19h. Samedi 12 mai, si vous êtes inscrit, les transports culturels du Babeltut vous proposent Géométrie de caoutchouc d'Aurélien Boris. C'est au Théâtre Garonne. Info Céline 06 78 79 13 85. Concert de gospel samedi 12 mai à Réalville par la chorale Kumbaya Gospel Chœur à l'église Saint-Martin de Lastour à 20h30. Libre participation. Samedi 12 mai à l'église de Parisot, c'est le chœur départemental de l'Aveyron qui donne un concerto à plusieurs voix. À la Guépy, dimanche 13 mai, c'est le rallye des deux rivières. Ça démarre à 9h. Dimanche à la Guépy, l'Open Café de Citrus est à la Maison des Compagnons rue du Barry de 14h à 18h. Dans le cadre du Salon du Livre d'Artiste à Saint-Antonin, samedi de 10h30 à 12h, un atelier dorure sur cuir. Mais de 15h à 16h à la médiathèque, conférence et diaporama, l'univers poétique de Léo Ferré par Colette Brognard. Et dimanche 13 mai, pour le dernier jour du festival, 11h démonstration de typographie par Gérard Truyer et à 16h remise des prix du concours. Et voici maintenant les questions du quiz. Attention, il faut répondre correctement aux deux questions et appelez le 05 63 67 03 57 et laissez votre message avec vos coordonnées si vous voulez recevoir les cadeaux. Combien de pays fondateurs sont à l'origine de la création de l'Union européenne ? 2, 6, 9 ou 13 ? Quelle était la nationalité de Robert Schuman, auteur de la déclaration qui marque symboliquement l'origine de la construction européenne ? Robert Schuman était irlandais, norvégien, français ou allemand ? 05 63 67 03 57. Laissez vos deux réponses et vos coordonnées. La maison de l'emploi a ouvert ses portes à Caussade. Elle n'est certes pas encore inaugurée puisque d'autres services doivent encore rejoindre les bureaux de ce bâtiment qui fait face à la gare de Caussade. Entretien avec deux personnes bien concernées par ce sujet.
Christophe Tillac, directeur de la maison de l'emploi Midi-Quercy.
François Bonhomme, maire de Caussade et président de la communauté de communes. Président également de l'association qui est gestionnaire de la maison de l'emploi.
La maison de l'emploi à Caussade, il y a écrit dessous, tout le monde s'y retrouve. Ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle, mais qu'est-ce qu'on y trouve dedans, monsieur le maire ?
Alors l'idée, c'est de trouver tous les acteurs qui interviennent dans le domaine de l'emploi, que ce soit dans l'accompagnement, dans le suivi. Et donc l'idée, c'est de la part notamment de l'État qui a créé ces maisons de l'emploi par la loi de Borloo de 2005, c'est de fédérer un peu tous les acteurs locaux de l'emploi, au lieu de les trouver dispersés et d'avoir donc des déperditions d'énergie, j'allais dire, c'est de les faire se retrouver dans un lieu unique où toutes les personnes demandeurs d'emploi, mais pas seulement, peuvent venir pour avoir un accompagnement adéquat.
Donc ça veut dire qu'il y a des locaux neufs, mais il n'y a rien de neuf au sens qu'il y avait plusieurs structures qui étaient éparpillées et qu'on regroupe, ce qui évite les déplacements.
Alors d'abord, le bâtiment d'abord est neuf, parce que c'était une ancienne chapellerie qui avait été désaffectée depuis une quarantaine d'années. Donc déjà, pour le secteur du Caussadet, c'est quand même une bonne nouvelle, parce que c'est un bâtiment réhabilité dans un secteur aussi qui renaît, le secteur de la gare de Caussade, à proximité de la prochaine maison médicale. Et puis, c'est neuf dans la mesure où certains acteurs de l'emploi intervenant sur le territoire sont regroupés dans un même lieu. Et cette mise en commun aussi permet des synergies et des passerelles qui n'existaient pas avant. Alors, ça passe aussi par des conventions qui sont passées avec l'État, notamment Pôle emploi, pour avoir des actions en commun. Plutôt que disperser les moyens, c'est quand même aussi rendre plus efficace l'action publique en matière d'emploi local. Et puis d'autre part, c'est nous appliquer aux spécificités du territoire. Le territoire de Caussade et du Midi-Quercy a des particularités en termes d'emploi, des contraintes, aussi des atouts et aussi des choses à corriger. Et donc c'est vraiment avoir une action appliquée au territoire.
Le financement européen dans ce genre d'opération?
Alors, l'intérêt de s'inscrire dans le cadre des maisons de l'emploi donc, qui ont été initiées par la loi Borloo, c'est aussi de bénéficier de financements. Donc pour le bâtiment, nous avons eu l'aide importante d'abord de l'État, donc du ministère du Travail et de l'Emploi, également des fonds européens et de la région. Et puis, il y a une aide au fonctionnement, c'est-à-dire pour mettre en œuvre un certain nombre d'actions qui sont concertées. Et ces actions bénéficient également du soutien, notamment de l'État. Et ces actions, encore une fois, sont appliquées aux problématiques du territoire, les problématiques de mobilité, des problématiques par rapport à des secteurs propres, comme le secteur de l'artisanat du bâtiment, ou encore le secteur médico-social, des choses qui vraiment sont en rapport avec le terrain.
Les collectivités locales aussi sont impliquées?
D'abord, ici, le bâtiment lui-même, c'est la communauté de communes, donc qui regroupe 19 communes, qui a été maître d'ouvrage, c'est-à-dire que c'est elle qui a la responsabilité de la réhabilitation de ce bâtiment. Et c'est elle qui aussi a lancé l'initiative, puisque c'est elle qui cofinance aussi cette réhabilitation. Et puis après, les collectivités sont dans les actions. La région pour l'investissement, la communauté commune de Terrasses de l'Aveyron pour le fonctionnement, le département pour le plan local d'insertion. Et puis, en fonction des actions qui pourront être menées aussi, on frappera aux portes de tel ou tel acteur de collectivité locale.
Alors, la personne concernée par une recherche d'emploi qui arrive ici, qu'est-ce qu'elle trouve comme possibilité, comme prestation, comme acteur dans ce domaine-là?
Alors, normalement, elle doit trouver quelque chose qui soit en rapport avec sa situation ou son projet. Parce que selon que vous souhaitiez créer une entreprise, que vous avez un projet, que vous êtes en recherche d'emploi, ce qui n'est pas forcément la même chose, que vous êtes en réflexion sur votre parcours professionnel, vous n'aurez pas affaire aux mêmes acteurs de l'emploi. Donc déjà, on s'applique à prendre le cheminement et le parcours individuel de chacun. Et ensuite, c'est aussi améliorer pour nous et travailler sur les relations avec les employeurs ou les employeurs potentiels. Donc, on trouvera aussi un certain d'annonces d'emploi en lien avec Pôle emploi. Et puis, améliorer aussi cette information qui parfois fait défaut. Toutes les demandes d'emploi ou les offres d'emploi ne passent pas par Pôle emploi, malheureusement. Pour différentes raisons, il faut aussi travailler sur les 60% d'offres d'emploi qui sont dans la nature, entre guillemets, et qui aujourd'hui ne passent pas nécessairement par Pôle emploi. Donc, vous voyez que le travail est vaste et important.
En fait, quelque part, il s'agit aussi de démontrer l'efficacité de cette maison de l'emploi auprès des éventuels employeurs.
Alors, effectivement, il s'agit aussi de faire prendre conscience à tous les différents acteurs, et y compris les employeurs, que la maison de l'emploi est un acteur local et un outil qui peut aussi les servir pour relier leurs offres d'emploi, qui sont parfois non pourvues ou mal pourvues, en termes de formation. Donc les liens d'information d'observatoire sont aussi importants pour appliquer ensuite des mesures qui soient efficaces. Donc effectivement, il ne faut pas restreindre la maison de l'emploi uniquement aux demandeurs d'emploi. C'est loin de là. C'est vraiment un planète beaucoup plus vaste qui peut concerner employeurs, employés évidemment, recherche d'emploi ou des personnes simplement qui s'interrogent sur leur parcours professionnel. Ça, c'est aussi important parce que dans une vie, et surtout avec la vie moderne aujourd'hui, eh ben, le parcours professionnel est amené à changer dans des bifurcations. Et donc, ce travail de réflexion et d'interrogation est très important aussi individuellement.
Alors ça, est-ce que ça va être possible, ça? Parce qu'on a l'impression que le domaine de la formation est une nébuleuse et que quelqu'un qui cherche peut avoir à chercher un peu partout. Est-ce que là, il y aura possibilité de relocaliser, si je peux dire, l'éventail de l'offre?
Oui, toute personne qui est en cherche d'emploi ou en questionnement sur son emploi se demande à qui s'adresser. Et constate rapidement la multiplicité des acteurs. Donc déjà, la maison de l'emploi en soi, de regrouper dans un seul lieu différents acteurs sur un même territoire, c'est déjà un facteur d'efficacité et de rationalisation. On ne court pas différents lieux et différents acteurs pour avoir une première information. Déjà, il y a une fonction d'orientation ici qui est extrêmement importante. Donc déjà, en soi, c'est une des missions importantes de cette maison de l'emploi. Et ensuite, en fonction, encore une fois, du parcours individuel et de l'objectif que chacun se fixe dans son parcours individuel, il y a une orientation, un accompagnement qui est le plus adéquat et le plus adapté possible.
Quand Jacques Chirac crée l'Agence nationale pour l'emploi, c'est un constat qu'il y en a besoin. Est-ce qu'aujourd'hui, les maisons de l'emploi répondent aux besoins du moderne?
Alors, ce qu'il faut voir...
Christophe Tillac, directeur de Maison de l'Emploi.
Comme l'a dit Monsieur Bonhomme, c'est que les Maisons de l'Emploi, en fait, sont nées avec la loi Borloo, ont été modifiées, en fait, quelques années plus tard, exactement dans le même texte de loi qui a créé Pôle emploi. Donc, je dirais, l'État a créé son outil avec la fusion entre la NPE et puis les ACEDIC à travers Pôle emploi, et puis a dit aux collectivités locales qui souhaitaient en effet s'investir dans le domaine de l'emploi, eh bien à ce moment-là, on peut vous accompagner par le biais des politiques des maisons de l'emploi. Voilà. Et aujourd'hui, c'est ce qu'ont choisi les collectivités du pays Midi-Quercy, et donc notamment la communauté de communes du Quercy-Caussadet, de créer une maison de l'emploi. Alors la maison de l'emploi, elle s'adresse aux chefs d'entreprise du territoire, aux salariés du territoire et aux demandeurs d'emploi du territoire. Elle a pour objectif, non pas de refaire le travail qui est fait par les différents partenaires, et notamment Pôle emploi, mais d'être dans une mission à la fois d'observation, d'anticipation des besoins, ce qu'on appelle en fait de l'ingénierie territoriale. Et en plus, sur notre territoire, la particularité, c'est que, comme il y avait historiquement des espaces ruraux emploi formation qui faisaient de l'accueil, de travailler aussi sur l'accueil, information, orientation de premier niveau, en fait, des publics qui fréquentent cette maison de l'emploi.
Un dernier mot, monsieur le maire.
D'abord, il faut dire que cette maison de l'emploi est la première du département. Donc simplement, c'est l'idée que, lorsque la loi a été créée en 2005, c'est que l'État a reconnu aux acteurs publics locaux un rôle, en tout cas leur donner la possibilité d'exercer un rôle dans ce domaine. Voilà, je pense que c'est pour ça que la communauté de communes de Quercy-Caussadet a saisi cette opportunité, considérant que sur les territoires, les questions de l'emploi n'étaient pas simplement la seule compétence de l'État, et qu'il pouvait y avoir une plus-value aux acteurs locaux publics ou aux acteurs du service public local de l'emploi d'intervenir dans ce domaine. Et c'est tout l'enjeu de cette maison de l'emploi, c'est de faire comprendre que les collectivités locales, les acteurs locaux peuvent s'impliquer plus fortement qu'ils ne l'ont fait dans le passé en matière d'emploi.
Je vous remercie.
Merci.
Merci. Thank you.
Le MAG, la vie du pays Midi-Quercy.
Le MAG Pays Midi-Quercy, tous les mercredis de 12h à 12h30 et samedi à 18h.
Dans le mois de l'Europe, on parle souvent de la façon dont les fonds européens interviennent pour aider à des projets, à des réalisations. Nathalie Grosborne, au CPIE, c'est le cas ?
Oui, tout à fait. Donc nous, au CPIE Midi-Quercy, donc Centre Permanent d'Initiative pour l'Environnement, donc nous intervenons sur les questions environnementales sur l'ensemble du département de Tarn-et-Garonne et nous sommes financés, bien sûr, depuis la création de l'association, par des crédits européens de toutes sortes, hein, des crédits, donc à la fois des crédits territoriaux, tels que le Leader 4 avec le pays Midi-Quercy, ou encore des crédits FEADER, ou à certaines époques aussi des crédits Fonds Social Européen. Voilà, donc les crédits européens pour nous sont un vrai complément et une vraie aide au fonctionnement de notre association, car ils représentent 15 à 20% de notre fonctionnement.
Et ensuite, sur chaque opération, par exemple les rencontres biodiversité, ça...
Alors,
contribue.
Tout à fait. Les rencontres sur la biodiversité, donc, une partie, bien entendu, est financée par des crédits européens, hein. C'est un programme, donc, d'animation à la fois sur la biodiversité et sur l'éco-responsabilité. Sur l'année 2012, nous avons 11 rencontres. Nous en avons déjà réalisé 5. Et la prochaine sera donc le samedi 12 mai sur les papillons et orchidées du vallon de Saint-Symphorien, sur le site Natura 2000 de Gossou. Voilà, donc une sortie plus particulièrement sur ces orchidées, hein, ces fleurs qui font souvent rêver, donc avec plus particulièrement Liliane Pesotto, qui est une spécialiste donc des orchidées, et elle est aussi de la Société des sciences naturelles de Tarn-et-Garonne. Donc une passionnée, hein, pour vous faire découvrir ces magnifiques fleurs, avec aussi les papillons de ce secteur-là. Ensuite, la suivante, 15 jours après, sera le dimanche 3 juin. Donc là, nous irons à l'autre bout du département, à Saint-Nicolas-de-la-Grave, avec notre animatrice, donc Gaëlle Matura, pour découvrir la flore autour du bassin de Saint-Nicolas. Cette journée, on l'appellera les humbles et les oubliés, c'est-à-dire en fait toutes les plantes que l'on peut retrouver au bord du plan d'eau de Saint-Nicolas-de-la-Grave, dans le cadre d'une fête qu'organise la base de loisirs de Saint-Nicolas.
Avec une réhabilitation maintenant de ce qu'avant on appelait les mauvaises herbes et dont on s'aperçoit qu'elles contribuent à la biodiversité.
Voilà, tout à fait. C'est ce qu'on va appeler maintenant la biodiversité ordinaire. Donc, le 3 juin, donc, cette rencontre est située, bien entendu, dans le cadre des Journées Nature de Midi-Pyrénées. Donc, une manifestation hein, qui dure une dizaine de jours et qui est organisée par le Conseil Régional de Midi-Pyrénées.
Et la recherche d'amphibiens, ne me dites pas aussi que c'est financé par l'Europe, ça.
Eh oui, Joanne. Donc, cette année, en 2012, donc nous avons notre opération, on va dire à la fois scientifique et de sciences participatives, sur un inventaire sur les amphibiens. Donc, pour ce projet-là, donc nous sommes financés par l'Europe et par des crédits FEDER Massif Central, cette fois-ci. Donc, sur les deux cantons qui sont en Massif Central dans notre département, les cantons de Caylus et de Saint-Antonin. Voilà, donc pour cette opération, ben on va dire il y a deux parties. Une première de sciences participatives, qui en fait on fait un inventaire des amphibiens avec l'aide des habitants. On recherche en fait, hein, ça s'appelle un dragon dans mon jardin. Avis de recherche, donc on a distribué une petite plaquette sur l'ensemble des communes et on demande aux particuliers de nous faire remonter en fait les batraciens qu'ils trouvent autour de leurs habitations, oui. Et plus particulièrement s'ils ont une petite mare, bien entendu. Voilà, donc cette opération a vraiment bien démarré. Nous collaborons aussi avec la Fédération de chasse de Tarn-et-Garonne qui avait lancé il y a quelques années une opération d'inventaire sur les mares. Et donc on travaille avec l'association de chasse de Saint-Antonin et celle de Saint-Projet. Voilà, on a à peu près une quarantaine de plans d'eau et on inventorie l'ensemble des batraciens que l'on trouve sur ces secteurs-là, étant donné que l'ensemble des batraciens, donc tous les batraciens que vous pouvez trouver, il y en a à peu près une douzaine en Tarn-et-Garonne, sont des espèces qui sont protégées. Voilà, donc d'où l'intérêt de les, bien entendu, de les inventorier, voir un peu où ils sont, comment ils vivent, pour en savoir un petit peu plus.
Et je parierais bien que vous faites des choses en direction des scolaires, non ?
Oui, bien entendu. Donc l'Europe nous finance, hein, on va dire, depuis 6 ou 7 ans, pour réaliser aussi des animations dans les écoles, ce que l'on appelle notre service éducatif. Donc cette année, en 2012, on a plus de 200 animations qui sont réalisées dans toutes les écoles du département. Alors sur toutes les thématiques, hein, plus particulièrement les milieux naturels, la biodiversité, tout ce qui va tourner autour du paysage et de sa lecture, la flore, la faune, mais aussi les déchets, l'eau, l'énergie, la mobilité, la terre, tous les sujets qui peuvent concerner des thèmes environnementaux. La plupart du temps, on va directement dans les écoles, hein, pour vraiment répondre aux projets pédagogiques de l'école et aussi à son environnement. On s'appuie beaucoup sur l'environnement autour de l'école. Et ensuite, on a aussi pas mal de classes qui viennent sur l'écomusée à Caylus et sur l'espace naturel sensible, grâce au soutien, il faut le dire, du financement des déplacements par le Conseil général de Tarn-et-Garonne, étant donné que donc nous avons au sein du CPIE un service éducatif vers les scolaires et les centres de loisirs.
Alors l'Europe est partout dans ces aides, même dans les ruches.
Oui, aussi. Donc, nous avons monté cette année un projet tout à fait nouveau, qui est la mise en place d'un rucher pédagogique avec des apiculteurs amateurs du secteur qui sont venus nous trouver. Et l'organisation de ce rucher est aussi financée sur des crédits européens, donc FEDER, Midi-Pyrénées.
Alors, le but du jeu, c'est quoi ?
Pour ce rucher, donc, c'est en fait préserver l'abeille noire locale, c'est-à-dire l'abeille noire du secteur, essayer de faire des divisions et donc essaimer, hein, tout simplement, ces essaims dans des jardins de particuliers. Ça s'adresse vraiment à des apiculteurs amateurs pour essayer de garder cette souche d'abeilles noires locales sur le secteur. Voilà, sachant qu'on sait, hein, qu'il y a actuellement donc un déclin des abeilles et qu'il est vraiment important de se mobiliser pour essayer de remettre des essaims un petit peu partout sur le territoire et qu'ils arrivent surtout à résister.
Au frelon asiatique.
Voilà, au frelon asiatique et aux autres prédateurs, on va dire.
Nathalie Grosborn, je vous remercie.
Avec plaisir.
CFM, le MAG, la vie du pays Midi-Quercy.
Le MAG Pays Midi-Quercy, tous les mercredis de 12h à 12h30 et samedi à 18h.
Merci d'avoir suivi ce MAG du pays Midi-Quercy que vous pouvez retrouver sur le site cfmradio.fr en cliquant sur émission, le MAG du pays Midi-Quercy. À la semaine prochaine.